Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, comme chaque dimanche pour terminer Soft Power, nous décryptons ce soir le groupe français numérique Webedia de Marc Ladré de La Charrière. Nous sommes pour en débattre avec Emmanuel Paquet de L'Express qui reste avec nous et Gilles Fontaine de Challenge. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Frédéric.
Alors Webedia, un petit Disney français actuellement, Marc Ladré de La Charrière revient dans la presse sur la stratégie de son groupe spécialisé, notamment c'était le cas dans Le Monde, mais plus récemment dans le JDD, sa stratégie dans les médias en ligne. Son groupe s'appelle Webedia. Que représente-t-il aujourd'hui? Que propose-t-il? Surtout, où en est véritablement ce groupe dont Marc Ladré de La Charrière disait déjà dans Le Monde en 2014 vouloir en faire, je cite, le bras armé de l'exception culturelle française. Et plus récemment, il a dit tout simplement, Emmanuel Paquet, Webedia a pour vocation de devenir un petit Disney français.
Oui, alors déjà, pour devenir un petit Disney français, il faudrait avoir des parcs, ce qu'il n'a pas. Il faudrait avoir des chaînes de télévision, ce qu'il n'a pas non plus. Et il faudrait avoir aussi des films au cinéma, ce qu'il n'a pas non plus. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est un peu loin de l'ambition américaine de Disney. En revanche, aujourd'hui, et c'est assez compliqué de déterminer ce que possède Fimalac, puisque aujourd'hui, c'est une holding qui détient plusieurs entités, dont Webedia, dont vous venez de parler. Fimalac détient également 3S Entertainment, donc qui possède des salles, notamment des salles de théâtre, des grandes salles de théâtre à Paris, dont le Théâtre Marigny, le Théâtre de la Madeleine, et puis également des producteurs, des tourneurs de jazz, 9 sociétés de production, 49 salles de spectacle et zénith dans toute la France. Donc ça, c'est pour la partie entertainment. Une autre partie hôtellerie dans laquelle aujourd'hui Fimalac se développe, donc hôtellerie plutôt de luxe. Donc
ça, c'est autour une deuxième. Groupe Barrière notamment.
Voilà, c'est une deuxième entité.
40% du groupe Barrière.
Exactement. Et la troisième entité, donc effectivement, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc Webedia, qui est plus centrée sur le numérique et les contenus. Donc on y retrouve un peu pêle-mêle, par exemple, le site Allociné, ou le site Film Actu. Dans l'univers du jeu vidéo, on retrouve jeuxvideo.com, qui est un des grands sites.
Du secteur,
du secteur, exactement. On retrouve des compétitions de e-sport, des équipes de e-sport aussi, comme le PSG. On retrouve de la mode et de la beauté avec Pure People, Pure Trend ou Terra Femina, de la cuisine avec 750 grammes ou l'Académie du goût. On retrouve des médias avec Pure Média, la Revue des Deux Mondes, hein, dont on parlera probablement plus tard également. Et puis le tourisme avec Easy Voyage et même de la production télé avec Elephant, puisque aujourd'hui Webedia détient 51%.
La plateforme aussi Overblog pour donner
pour tout
un peu
blog, etc.
un ensemble de ce groupe.
Dernier point, pardon, on n'en a pas parlé, puisque il y a aussi Mixicom, donc qui a été racheté. Mixicom qui aujourd'hui travaille avec des grands youtubeurs, dont Norman, Cyprien ou Natou, donc voilà.
Alors, ou encore Squeezie.
Pas Hugo Travers, hein, je suis désolé.
Qui est resté avec nous, on en parlera avec lui dans un instant. Voilà. Alors donc, un groupe un peu comme ça, disparate. Gilles Fontaine, vous êtes journaliste à Challenge. Comment est-ce que vous voyez les forces et puis les faiblesses de ce groupe et sa cohérence finalement?
Alors il faut aussi rappeler que Marc Ladré de La Charrière est un énarque au départ, qui très vite est sorti du rang, enfin qui a quitté la fonction publique et est rentré dans le privé. Il avait commencé sa carrière chez L'Oréal, il a quitté L'Oréal assez rapidement et puis il a créé son groupe en 91, Fimalac, qui au début était un peu un assemblage de plein de choses, vous l'avez mentionné Frédéric, mais il avait toujours un petit peu dans la tête cette dimension média, c'est-à-dire que une des premières choses qu'il a faites en quittant justement la fonction publique, c'était de créer un journal, Mademoiselle, je sais pas trop quel est le devenir ensuite du journal, mais en tout cas il a c'était une des premières choses qu'il a faites, et puis il a ensuite racheté les éditions Masson, qu'il a vendu avec une superbe plus-value quelques années plus tard. C'est un entrepreneur.
Rappelons qu'une partie de sa fortune vient de l'agence de notation Fitch, dont il détenait 20%.
Voilà. Enfin, en tout cas, il a cédé le solde. C'est une agence qu'il avait fondée. Il a cédé le solde à Hearst l'an dernier pour 2,8 milliards de dollars.
Donc, ce qui explique sa fortune pour
un côté.
Ce qui
explique sa fortune colossale. À 78 ans, il a une fortune qui est évaluée par le magazine Challenge à...
Bonne référence, d'ailleurs, dans le
excellente
secteur.
Excellente référence. à près de 3,5 milliards d'euros, ce qui le place quand même à la 28e place des fortunes françaises. Et donc oui, il a cette dimension
entrepreneuriale. Il est un peu insubmersible, hein, finalement. Il y a un côté lapin Duracell chez cet homme.
Mais en plus, c'est drôle que vous disiez ça, parce que
On a
mentionné l'affaire de la revue des Deux Mondes, et c'est vrai que
rappelez ça en une seconde.
Il y a quelques ombres au tableau, évidemment. On l'a accusé, puis d'ailleurs il a été condamné
pour ça, parce
qu'il a plaidé coupable, effectivement, d'avoir un peu surpayé Pénélope Fillon.
Il a même payé tout court, mais elle n'a pas travaillé.
Un emploi fictif.
Voilà. Ça lui a coûté 8 mois de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende.
Voilà.
Mais donc il a plaidé coupable en octobre 2018, dont le dossier, de certaine manière,
est clos.
Et puis,
il y a quelques années, il avait été aussi impliqué dans l'affaire Executive Life, qui était un autre grand scandale financier. Enfin bon, il a un côté un peu borderline, quand même, notre Marc-Lanet Lacharrière.
En tout cas, sur une ou deux affaires.
Voilà.
Le reste du secteur,
mais c'est aussi
50
fait,
sites internet, 3000 collaborateurs, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Emmanuel Paquette, est-ce que c'est crédible de devenir le bras armé de l'exception culturelle française, sinon le petit Disney?
C'est sûr que, d'une part, comme le disait Gilles, il en a les moyens, puisque financièrement, il a quand même amassé une fortune qui lui permet de créer un empire comme ça, un peu un patchwork avec différents types d'activités. Alors, il a voulu déjà se mettre sur le numérique en devenant un acteur de poids, et c'est le cas aujourd'hui avec l'ensemble de la galaxie des titres et sites dont on a pu parler précédemment. C'est aujourd'hui un acteur de poids, non seulement en France, mais dans plusieurs pays à l'international. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une réussite. Après, il est vrai que la réputation de Webedia et de Fimalac, c'est souvent de surpayer des actifs internet quand ils sont en vente, un peu comme le faisait Lagardère à l'époque.
Allociné, notamment.
Exactement. Donc de payer assez cher parce qu'ils veulent aller vite pour constituer un groupe. Et ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est une forme de virage qui a été pris, puisque dans l'activité Webedia, donc qui était essentiellement numérique, d'un coup, ils rachètent Elephant, qui est aujourd'hui une des grosses boîtes de production française et qui fait par exemple 7 à 8 pour TF1, qui a fait fait pas ça pour France Télévisions, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec l'univers du numérique. Et là, on se demande c'est quoi la cohérence entre Allociné d'un côté, Elephant de l'autre, des youtubeurs à côté. Donc on voit pas trop de liens et de synergies possibles entre ces différentes activités.
Alors, est avec nous ce soir Hugo Travers, qui est invité en début de cette émission, qui est resté. Webedia, on l'a dit, a beaucoup musé sur YouTube, et en particulier sur certains youtubeurs qui sont des amis, mais aussi des concurrents, Norman, Cyprien, Squeezie, d'autres. Comment vous voyez-vous cette écurie ?
C'est Webedia, quand on est youtubeur, tous les gros youtubeurs connaissent Webedia, même chez Mais ils y sont pas. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que quand on voit le classement des plus gros youtubeurs français, Webedia a la quasi-intégralité, si ce n'est l'intégralité du top 10 des youtubeurs français en termes de nombre d'abonnés. Donc c'est quand même un poids lourd très important, c'est-à-dire que aujourd'hui, un jeune qui passe du temps sur YouTube, il y en a beaucoup, ou même sur Twitch ou sur d'autres plateformes, c'est quasi certain qu'il suit des youtubeurs qui sont chez Webedia. Alors quand on dit être chez Webedia, ça veut dire concrètement, c'est pas que les chaînes appartiennent à Webedia, mais c'est que Webedia, ce qu'on appelle un network, un multi-channel network, va gérer tout un tas de choses, va gérer la monétisation, va gérer les partenariats, et donc va parfois aussi aider à la production des vidéos. On a certaines vidéos, Webedia va trouver une marque, va ensuite associer une boîte de production qu'elle a rachetée et donc va produire des contenus avec les youtubeurs, avec en plus des marques. Et donc il y a des liens qui peuvent être faits. Je sais que certains événements d'e-sport, par exemple, sont faits au sein des hôtels barrières, etc. Donc il y a des synergies qui se font. Après, c'est, je pense, encore au tout début. Mais c'est évident que Webedia, en tant qu'acteur sur le web, via les sites, mais aussi au niveau des youtubeurs, c'est un poids lourd, et encore une fois, tous les gros youtubeurs quasiment sont chez Webedia aujourd'hui.
Gilles Fontaine.
C'est vrai qu'à travers sa société 3S, l'idée c'est quand même de créer une vraie plateforme de soutien, d'accompagnement, notamment des youtubeurs, c'est-à-dire que et d'autres artistes, hein, Jamel Debbouze, Grand Corps Malade, Laurent Gérard, enfin tout cela aussi font partie de l'écurie Webedia, enfin de 3S en tout cas. Et donc l'idée c'est effectivement de leur offrir une plateforme clé en main avec tout ce dont peut avoir besoin un artiste, depuis le marketing, la gestion de la billetterie, etc. Et puis il y a un autre élément qu'on n'a pas mentionné. connaît, c'est TradeLab, qui est sa plateforme de publicité programmatique. Le lien entre toutes ces activités, entre tous ces artistes, c'est quand même c'est du gratuit. Il fait pas beaucoup de payants. Enfin bon, il y a des salles de spectacle en billetterie un peu chez lui, mais l'idée, c'est effectivement de monétiser tous ces contenus.
Sauf la revue des Deux Mondes, ça lui a pas trop réussi.
mais ça, c'était comme Valeurs Actuelles qu'il a revendu assez vite aussi à un moment donné.
Il investit un champ en fait qui était effectivement un champ sauvage, parce que vous êtes tout jeune Hugo, mais ça on l'a vu, je fais le lien avec 10%, 10% dans lequel par exemple il y a eu un youtubeur qui a fait une apparition, il s'appelle Norman, et qui explique, donc on le met en scène avec ses agents, dans la vie en fait il explique que c'est sa sœur qui a 2 ans moins que lui et qui est originaire de Lille qui est devenue son agent. Tous ces jeunes gens, ils ne connaissaient rien à ce métier. Ils se sont retrouvés à devoir gérer des choses. Ils ont tous fait une vidéo où ils racontent « Ah ben là, j'ai reçu trop de cadeaux, je ne sais plus quoi faire avec la collaboration des marques ». Vous, ça s'est passé comment? Et vous avez l'impression justement qu'il se structure comment ce marché? Il y a à la fois des espèces de managers qui sont nés de rien et en face, il y a la drêle de la charrière.
Alors, on a Webedia, mais il n'y a pas que Webedia. Tous les grands groupes médias aujourd'hui, quasiment en France, ont aussi... une agence ou
un petit cheptel de YouTube.
TF1 on a une, c'est Studio 111, M6 on a un via Golden Moustache, Golden Network, chacun a un peu ses écuries, on va dire comme ça, et c'est un besoin qui est assez important pour beaucoup de youtubeurs parce que c'est des créateurs avant tout, ils n'ont pas envie forcément de gérer les partenariats ou alors ils n'ont pas des contacts pour le faire.
Parfois ils sont très jeunes,
ils ont besoin sur de la production, sur la monétisation des vidéos, et donc c'est très important pour beaucoup de youtubeurs. C'est pas obligatoire non plus. Moi, je suis souvent en discussion avec tous les acteurs qu'on vient de citer, mais je suis pas signé chez l'un d'eux parce que j'arrive à le gérer moi-même et avoir une équipe qui le gère moi-même. Mais c'est vrai que c'est important pour beaucoup de youtubeurs et on parle encore une fois d'une audience qui est massive de youtubeurs qui font des dizaines de millions de vues et pour une génération, vous le savez aussi, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, Webedia, de ce point de vue-là, a quand même une avance assez importante. Certes, il y en a d'autres acteurs qui sont très importants dessus, mais Webedia a une avance de ce point de vue-là. Et ils sont en mesure, honnêtement, de, assez souvent, je le vois encore récemment, d'anticiper et de voir un peu les nouvelles tendances sur YouTube, sur Twitch, sur d'autres plateformes pour les signer.
Hugo Travers qui était là, le gentil, le good cop. Emmanuel Paquette est le bad cop maintenant.
Non, pour rebondir un petit peu sur Fimalac en fait et Fitch, à l'époque la société était cotée en bourse donc on pouvait voir les comptes. Là il se trouve que sur les différentes entités dont on parle, quand on cherche les comptes on ne trouve absolument rien. Ils ne sont pas déposés au greffe. C'est en fait totalement d'une opacité totale. On ne sait pas combien ils rachètent même les actifs. Par exemple, dans le cas d'Elephant et compagnie, ils n'ont jamais voulu donner le chiffre auquel ils avaient pris 51% de la société. Donc on ne sait pas combien ils dépensent.
Il a retiré son groupe de la cote.
Exactement, oui. Mais du coup, on ne sait pas combien ils dépensent. On ne connaît pas les chiffres puisqu'ils ne déposent rien au greffe du tribunal. Donc c'est d'une opacité totale. Et aujourd'hui même, c'est très compliqué de dire c'est un succès ou un échec puisqu'on n'a pas les chiffres. Pour pouvoir.
Mais quel est son objectif finalement, Gilles Fontaine? Il a, vous l'avez rappelé, 78 ans. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Alors c'est quand même une affaire, une
Marc affaire Ladrée de famille,
puisqu'il avance avec son épouse, qui est aussi aux commandes du groupe, Véronique Morali, puis notamment ses filles. Il a 4 enfants, dont 2 filles qui sont très impliquées aussi dans les activités du groupe. Donc il y a de toute façon une dimension patrimoniale, évidemment, dans tout ce qu'il est en train de mettre en place. C'est vrai qu'on a l'impression un peu que nos champions nationaux, Vincent Bolloré, lui aussi, essaye de constituer un groupe de médias. Bon an, mal an, c'est un peu compliqué. On comprend pas, la stratégie n'est pas toujours très lisible. C'est un petit peu ce qui les réunit là. Dans l'esprit, en tout cas, et dans ce qu'il raconte, quand il nous dit le nouveau Disney à la française, il dit aussi je veux devenir le nouveau groupe de divertissement pour les jeunes, pour les millennials. Voilà, donc il y a ces deux dimensions-là. Il y a à la fois le digital, où là, c'est vrai que tout le monde avance un petit peu à l'aveugle, parce qu'on ne sait pas quel est le bon modèle. Personne ne connaît vraiment aujourd'hui la recette miracle qui fera que, ben oui, le digital, ça marchera et on pourra gagner beaucoup d'argent avec ça. Et puis, séduire aujourd'hui une population, une audience qui a tendance, même plus que tendance, se désintéresse totalement des médias classiques, historiques. Et donc, trouver... Les contenus sont là. Comment est-ce qu'on les projette? Sur quel type de vecteur? C'est ce qui est probablement ce qu'il essaie de mettre en place.
France Culture, il est 20h27. Je vous propose de terminer cette émission en vous recommandant un petit article, un petit clin d'œil d'ailleurs numérique. Il est signé, c'est un article qui est signé par l'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, publié jeudi dans le New York Times. Il a quitté depuis longtemps la compagnie qu'il avait fondée avec Mark Zuckerberg. Et pour la première fois aussi, je dirais publiquement, aussi fortement, il attaque Facebook. Il montre l'impasse dans laquelle la société serait, argument à la clé, un réquisitoire sévère qui montre qu'une société censée faire le bien est devenue le véhicule idéal pour toutes les manipulations et pas seulement russes. C'est donc à lire dans le New York Times. Hugo Travers, vous en avez parlé aujourd'hui dans votre actualité.
J'en ai parlé dans les actus de la semaine, effectivement. C'est un sujet qui me semble important et puis en plus... Mark Zuckerberg veut maintenant lutter contre les fausses informations sur Instagram.
Il était à Paris cette semaine. Il y a VivaTech qui a lieu en fin de semaine. On en parlera d'ailleurs dimanche prochain. Un article qui vous avait marqué, donc, qui vous avait intéressé dans le New York Times.
Et c'est intéressant aussi d'en parler parce que la question des fausses informations sur les réseaux sociaux, il y a de quoi dire. Et en l'occurrence, ça se pose aussi maintenant sur Instagram, d'où la réaction là-dessus.
Et quant à vous, Emmanuel Paquette, vous publierez une enquête sur Facebook dans l'Express qui sera à la une ce mercredi.
Oui, exactement. Donc, c'était un dossier de 13 pages avec des interviews, notamment de Roger McNamee, qui fut un des premiers financiers de Facebook et conseiller de Mark Zuckerberg, qui est aujourd'hui un de ses plus grands critiques. Et puis d'Aaron Greenspan aussi, qui est aujourd'hui un ancien compagnon de chambrée qui attaque Facebook et Zuckerberg.